lycée, il veut savoir quels sont les contenus de l'application Apollo Covid-19.
C'est une très belle question et je l'apprécie énormément. Le contenu de Apollo Covid-19 se définit comme suit. Nous avons Stats et nous avons Covid-19. Dans le menu Stats, lorsque vous cliquez sur Stats, vous avez accès à une carte qui vous donne le compte-rendu statistique de toutes les informations concernant le nombre de cas infectés, le nombre de cas actifs et le nombre de décès liés à cette pandémie. Et dans le menu COVID, lorsque vous cliquez sur COVID-19, vous avez accès à une série de questionnaires qui vous permettent d'identifier votre risque personnel d'être exposé au virus. Ensuite, de par ce risque, nous avons une autre matrice de risque qui est appliquée, qui permet de définir votre situation géographique et les risques qui y sont affectés. Et de par ces deux résultats, nous pouvons immédiatement transmettre les résultats aux autorités locales afin que ces dernières puissent vous prendre en charge. Il faut que toute la population sache que la prise en charge du COVID-19 est vraiment gratuite et l'application Apollo en elle-même est gratuite et accessible partout.
Alphonse Mbouaki, depuis la RDC, veut savoir si l'Afrique mène aussi des recherches comme ailleurs en Occident pour trouver un remède contre le coronavirus.
Il faut le dire, l'Afrique n'encourage pas les innovateurs. Car les gouvernements privilégient les solutions occidentales qui n'ont aucun sens patriotique aux solutions locales plus appropriées et souvent plus efficaces. Tous les gouvernements que nous avons approchés ont loué et félicité notre innovation. Mais la bureaucratie a un autre niveau. J'ai juste peur que la lenteur des choses nous empêche de sauver le maximum de vies. Nos confrères africains méritent la vie et la santé. Nous sommes tous égaux sur Terre et la vie est notre droit universel. Pour le moment, je ne pense pas que les solutions mises en place par les gouvernements africains soient les meilleures. Nous aurions pu prendre des mesures plus tôt et utiliser la technologie pour contrer cette pandémie. Prenons par exemple le test. Nous savons tous qu'aucun pays au monde ne peut tester toute sa population. Nous n'avons pas assez de supply nécessaire pour tester toute la population. Donc, le confinement est une très belle chose en elle-même, mais pour qu'elle soit efficace, il faut y joindre la technologie. Je prends par exemple pour le test, lorsque nous devons tester des personnes, que ces personnes, nous avons pu effectuer un triage auparavant, ces personnes peuvent rester confinées et n'auront pas besoin de se déplacer. Nous pourrons envoyer des équipes spéciales pour aller les tester. Toute personne qui sera identifiée high risk pourra en fait se faire tester à domicile parce que nous pourrons les contacter à travers Apollo. Nous pourrons amener le gouvernement à se rendre vers ces personnes pour les tester. Cela, nous n'allons pas tester inutilement. Nous allons éviter les trous négatifs. Ça, c'est en fait d'aller tester des personnes qui ne sont pas malades.
Nicolas Kalindé écrit depuis le Sud Kivu en République démocratique du Congo. Il veut savoir les raisons qui expliquent la faible statistique des cas confirmés et des décès en Afrique du Sud par rapport à d'autres continents, alors que les systèmes sanitaires de la plupart des pays africains n'ont pas vraiment la capacité ou n'affichent pas la capacité nécessaire pour endiguer la pandémie.
En toute franchise, je peux vous dire une chose. Les taux que vous voyez n'est pas le taux réel. Parce que les pays africains, même tous les pays du monde, n'ont pas la capacité de tester toute la population. Et tout pays qui n'aura pas pratiqué le confinement très tôt se verra exposé. Parce que aujourd'hui, nous découvrons que le virus a une autre manière d'opérer. C'est qu'il reste plus longtemps dans l'air. Au départ, on pensait que c'était juste 30, 15 minutes, 45 minutes. Plus le temps passe, aujourd'hui nous avons des inférences qui disent que le virus peut rester jusqu'à 2 heures dans l'air. Donc si quelqu'un est tenu et que 2 heures après vous empruntez la même route, vous avez la forte chance d'être contaminé. Donc vu que tout gouvernement africain et tout gouvernement dans le monde n'a pas assez de tests pour tester toute la population, voilà pourquoi il faut utiliser la technologie. Avec la technologie, je peux vous dire, nous pourrons avoir une réponse plus adéquate à votre question, à savoir le nombre réel des cas infectés ou des cas potentiels d'infection que nous allons tester et tout. Si l'Afrique du Sud utilise Apollo dès aujourd'hui, je peux vous dire que vous aurez plus de véracité dans vos statistiques.
Poloma Poku Sumbu, il n'a pas dit d'où il écrit, mais il se demande si les vaccins qu'on est en train d'expérimenter et qui sont censés combattre le coronavirus seraient une bonne chose ou si ces vaccins ne seraient pas une bonne chose pour l'Afrique.
Je pourrais dire en fait mondialement avoir une solution qu'est un vaccin contre le coronavirus COVID-19 serait une bénédiction. Ça, je peux vous le dire. Maintenant, il faut savoir que l'Africain doit être meilleur. Le chercheur africain ne doit pas rester en marge. L'Africain lambda, la population africaine doit encourager ses chercheurs à être au devant de la scène. Parce que nous n'allons pas toujours attendre que les Occidentaux nous disent qu'ils ont des solutions. Il faut que nous ayons nos solutions et nous allons aller leur demander de l'utiliser. Et je pense qu'avec le COVID-19, nous avions une très belle occasion de montrer le savoir-faire africain.
Laurent Pepson dit effectivement qu'il faut que les dirigeants africains optent pour des solutions purement africaines pour avoir un plan stratégique de lutte contre le coronavirus.
Nous, chercheurs et innovateurs africains, nous faisons notre maximum pour trouver des solutions. Et le succès de nos trouvailles repose toujours entre vos mains. Il faut que la population africaine commence à consommer africain. Parce que, vous voyez, nous, en tant que chercheurs et innovateurs, lorsque nous trouvons des solutions, il est vraiment pénible pour nous d'amener nos populations à les utiliser, car nos populations sont toutes portées vers l'Occident. Elles veulent toutes des solutions occidentales. Du moment où ça vient de l'Occident, c'est déjà certifié. Pourtant, nous avons de meilleurs produits, nous avons de meilleures solutions. Et ça, il faut qu'on change notre mentalité. Il faut que nous commençons à consommer africain pour que cela nous aide tous. Je pense que nous sommes confrontés à un dilemme en Afrique. La recherche n'est pas soutenue. La recherche n'est vraiment pas soutenue par le gouvernement. La recherche n'est pas soutenue par la population. La recherche n'est pas soutenue par les entreprises. Pendant que dans tout autre pays développé, la recherche est vraiment soutenue. Nous avons un pourcentage du budget qui est octroyé pour la recherche qui tourne entre 7 et 12% en fonction des compagnies et des pays. Mais nous savons tous que le socle du développement est basé sur la recherche. C'est l'innovation qui apporte le développement. Lorsque nous n'allons pas nous focaliser sur la recherche, nos pays ne pourront jamais se développer. À un certain niveau, on restera toujours bloqué. Et je peux vous le dire, je suis vraiment peiné par cela parce que nous, chercheurs et innovateurs africains, nous mettrons nos propres moyens à disposition. Et lorsque nous avons une solution, la population en elle-même ne suit pas. Le gouvernement ne facilite pas l'implémentation de nos solutions. Et nous sommes juste au niveau où on pourra dire, est-ce que ça vaut le coup? Voilà la question, je pense, que chaque chercheur africain se pose. Est-ce que ça vaut le coup? Parce que lorsque tu as une solution que tu sais qu'elle sera bénéfique pour tout un peuple, il faut que ce peuple puisse l'avoir. Mais lorsque tu devras la mettre en place et le peuple ne pourra pas avoir cette solution, c'est vraiment triste. Alors, je peux vous le dire, nous sommes vraiment peinés et on espère que cette crise permettra à nos populations, à nos gouvernements d'avoir un wake-up call.
Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire pour sensibiliser les hommes politiques, les entreprises privées ou même les populations à soutenir les initiatives locales, les initiatives africaines qui apporteront des solutions aux problèmes africains comme maintenant le COVID-19?
Je répondrai que tout passe par l'éducation. Et l'éducation, je veux dire déjà l'information. Et je vous remercie car vous, médias, vous faites le maximum pour informer la population et avec la vraie information. Alors, avis et je vous tire mon chapeau. Et le deuxième volet serait politique car il n'y a que la politique qui puisse vraiment, vraiment, vraiment prendre les décisions qu'il faut. Car pour revigorer en fait notre secteur de recherche et de développement, il va falloir plusieurs choses. Il va falloir des décisions politiques, au niveau financier, au niveau systémique et au niveau juridique. Quand vous prenez notre cas, nous mettons notre temps, moyens financiers et je dirais tout à disposition pour trouver une solution. Lorsque nous trouvons cette solution, il faut qu'elle soit aussi acceptée si elle est prouvée être viable, être adéquate. Mais il se trouve que même si elle est la meilleure solution, on ne puisse pas la mettre en pratique. Il faut vous le dire simplement. Avec nous, comme nous allons lancer Apollo Covid-19, et plusieurs personnes nous ont fait le retour comme quoi il y avait une solution française qui était en place et qui pouvait régler cela. Mais j'ai été déçu, car la France a publié une solution très simple qui, encore une fois, est appréciée de la population, mais qui ne résout rien et qui ne fait que de la constatation. Ce n'est que de la constatation, rien de plus. Alors l'Africain aimant, tout ce qui vient de l'Occident, fera de la résistance face à notre application qui est meilleure, qui applique plusieurs matrices de risque, qui est encore plus avant-gardiste, qui applique le knowledge management, qui permet une suivi, une traçabilité et tout pour réduire et éradiquer immédiatement ce virus, ce Covid-19 de l'Afrique. Mais il n'y a pas de suivi. Tout le monde dit, oh, les Français ont fait un truc et donc on va les suivre. Pourtant, le truc devait être vraiment inutile. Et en ce moment, lorsque nous voulons la comparer à Apollo.
Eric Nefouani veut savoir quels sont les avantages et les désavantages ou les inconvénients de l'application Apollo Covid-19.
Je commencerai par les inconvénients, car toute histoire doit avoir une belle fin. Alors, je dirais que pour les inconvénients, nous avons les inconvénients techniques et les inconvénients politiques. Avec les inconvénients politiques, nous dirons que la prise de décision pour la confirmation d'Apollo, même si Apollo est révolutionnaire, innovateur et avant-gardiste, revient toujours au gouvernement. Alors, cela n'est pas toujours garanti, parce qu'il faut que le gouvernement puisse comprendre déjà la solution en elle-même pour voir qu'elle est vraiment adéquate. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Et la solution technique, c'est qu'il faudrait forcément que nous ayons soit l'accès à Internet ou l'accès à un téléphone mobile ou l'accès à un téléphone analogique. Donc, il faut une bande en fait passante de technologie pour qu'il y ait accès à Apollo. Mais les avantages, c'est que Apollo sauve des vies. Apollo sauve des vies, Apollo facilite la prise de décision, Apollo permet à chaque individu de connaître son statut face au coronavirus, et Apollo permet de savoir dans quelle zone vous vous trouvez, est-ce que cette zone est infectée ou pas. Apollo permet de vous définir quelles sont les routes à éviter, et Apollo fait plus. Nous ne cesserons de citer les avantages. Mais en outre, je peux vous dire, chaque individu en utilisant Apollo pourra se rendre compte du bienfait de cette application dans sa vie. Alors, j'encourage tout le monde à aller sur la page Facebook Apollo et à se procurer cette application.
Alphonse Mbouaki cite les États-Unis qui ont déboursé beaucoup de millions de dollars pour endiguer la propagation du coronavirus, mais il en va de même pour beaucoup de pays européens aussi. Mais est-ce que les pays africains ou les gouvernements africains ont investi assez d'argent pour lutter contre le coronavirus?
Je dirais en toute franchise, ce n'est pas assez. Mais peuvent-ils faire mieux? Difficile. Et il faut savoir que ces puissances citées, les États-Unis, l'Europe, sont vraiment des géants comparés à l'Afrique. L'Afrique ne pèse que 2,6% de l'économie mondiale. Voilà pourquoi, pour rendre toute chose efficace, il faut que chaque pays africain décide d'implémenter Apollo. Il n'y a que la technologie qui pourra nous sauver. Parce que plus nous allons durer dans ce système de confinement, plus il y aura de la famine, les Africains commenceront à mourir.
À propos de ce confinement que les gouvernements africains ont instauré dans différents pays, quels pourraient être les avantages et les inconvénients de ce confinement?
L'avantage que je peux tirer ici, c'est qu'il y a une réduction minimale du taux de contamination. Pourquoi je dis minimal? Parce que ce confinement n'est pas vraiment à 100% respecté, parce qu'on demande un confinement et on dit à cette même population de sortir, se faire tester. Donc il n'y a plus de confinement si on demande à cette même population de se déplacer. C'est un problème dans la prise de décision qui doit être meilleur. Au plan négatif, nous avons tellement d'Africains. En fait, la majorité de nos populations ont une activité génératrice de revenus journaliers. Donc le confinement est pénible. Il y a plusieurs familles qui seront affectées parce que n'ont pas assez de ressources pour pouvoir vivre plusieurs mois sans activité génératrice de revenus. Comment se nourrissent-elles? Je pense qu'il faut saluer quand même certains gouvernements qui essaient de rendre les factures d'électricité, d'eau gratuites pour un certain nombre de mois, qui essaient de partager des vivres à la population vraiment diminuée, à la population en danger.
Est-ce que vous connaissez d'autres développeurs qui ont mis au point des applications comme Apollo Covid-19 pour aider l'Afrique à lutter contre le coronavirus?
J'ai eu écho qu'il y avait un développeur sénégalais et un développeur nigérien qui avait une proposition semblable à celle proposée par la France. Et dans nos échanges avec le gouvernement burkinabé, j'ai eu écho qu'ils avaient sélectionné un développeur, une équipe locale qui était en phase de proposer une solution et tout. Je suis vraiment heureux quand je l'entends parce que ça ouvre la porte pour la collaboration pour le futur et tout. Donc c'est vraiment agréable de toujours savoir que nous ne sommes pas seuls à chercher à trouver une solution, qu'il y a plusieurs personnes qui pensent comme nous, qui essaient de faire à leur niveau le maximum possible. Donc c'est super, super cool.
Que faites-vous personnellement pour vous protéger contre le COVID-19?
Je me suis auto-confiné déjà 3 semaines avant la décision officielle du gouvernement, car j'ai été en Asie au cours du mois de janvier. Je suis à la lettre les consignes de l'OMS et du gouvernement. J'écoute uniquement les informations venant du gouvernement et de l'OMS, car il faut faire attention aux fake news. J'en profite pour m'éduquer sur certains sujets et j'essaie d'être en contact téléphonique ou FaceTime avec mes proches. Je fais des recherches, donc je travaille à distance et j'aide à travers Apollo à sauver l'Afrique. Entre autres, je suis les consignes, il faut pratiquer le confinement et tout, mais il faut l'isolation totale. Ça, je tiens à le signifier encore une fois.
Merci beaucoup, Cheikh, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été un invité. C'était un plaisir.
Le plaisir est mien de partager l'antenne avec vous. Je tiens à vous remercier et je vous souhaite une bonne santé, une bonne humeur.
Vous venez de suivre l'interview que nous a accordée M. Sékou Cheikh Bomba, PDG de SCB Systèmes Côte d'Ivoire, sur l'apport de l'application Apollo COVID-19 dans la lutte contre le coronavirus. À présent, carnet de santé avec Linor Moudou.
Cette semaine, dans carnet de santé, la chloroquine, quelle est son efficacité dans le traitement du nouveau coronavirus? Nous jetons un coup d'œil. Les experts mettent en garde contre l'automédication par la chloroquine pour prévenir ou traiter la pneumonie virale. C'est dans cette édition de carnet de santé. Bonjour, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. La lutte contre le nouveau coronavirus est en plein essor à travers le monde. Plus d'un million de personnes sont infectées par le COVID-19 et le virus mortel a paralysé des villes tout entières. Il n'existe actuellement aucun traitement ni vaccin contre la nouvelle maladie, mais plusieurs recherches et essais thérapeutiques sont en cours à travers le monde. Ici aux États-Unis, l'Agence de contrôle des aliments et des médicaments, la FDA, a récemment approuvé l'utilisation d'urgence de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine pour lutter contre la pneumonie virale. Quelques études modestes ont montré une possible efficacité de ces médicaments, mais certains experts avertissent qu'il n'y a pas de preuves solides. Regardez.
La chloroquine est un médicament prescrit depuis plusieurs décennies contre le paludisme, un parasite véhiculé par les moustiques. Elle est connue sous plusieurs noms commerciaux selon les pays et les laboratoires qui la fabriquent, Nivaquine ou Rizoquine par exemple. Il existe un dérivé, l'hydroxychloroquine, mieux toléré, connu en France, sous le nom de Plaquenil, utilisé contre le lupus ou la polyarthrite rhumatoïde. Les effets secondaires sont nombreux, nausées, vomissements, éruptions cutanées, mais aussi atteintes ophtalmologiques, troubles cardiaques ou neurologiques. Un surdosage de la chloroquine peut être particulièrement dangereux, voire mortel. Alors pourquoi cet antipaludique suscite-t-il de l'espoir ? Dans l'attente d'un hypothétique vaccin qui pourrait être disponible dans un an, voire davantage, de nombreuses équipes scientifiques testent plusieurs médicaments existants et combinaisons de médicaments pour tenter de trouver au plus vite un traitement. Par rapport à d'autres molécules, la chloroquine et l'hydroxychloroquine, ont davantage d'être disponibles, bon marché et bien connues, d'où l'intérêt particulier qu'elles suscitent.
Pourquoi fait-elle polémique ? Deux publications, une chinoise et une française, font part de résultats positifs avec des essais cliniques, c'est-à-dire sur de vrais patients atteints du Covid-19. Mais de nombreux scientifiques et l'OMS en pointent les limites, notamment parce que ces essais portent sur trop peu de patients et qui n'ont pas été menés selon les protocoles scientifiques standards. Qui l'utilise contre le Covid-19 ? Plusieurs pays autorisent son usage contre le nouveau coronavirus, mais reste à savoir dans quel cadre. Par exemple, en France, l'hydroxychloroquine est autorisée à titre dérogatoire à l'hôpital sous la responsabilité des médecins et seulement pour les cas graves de Covid-19. Quant au Maroc, il a appelé les centres hospitaliers et directeurs régionaux de la santé à l'introduction de la chloroquine pour les cas confirmés. Les résultats sont attendus dans les semaines prochaines. Aux États-Unis, la FDA, qui supervise la commercialisation des médicaments, a annoncé un essai clinique étendu. L'OMS a aussi lancé un vaste essai clinique international.
Pour en savoir davantage, nous avons avec nous par Skype, depuis Bordeaux, France, le docteur Mamadou Mansour Diouf, médecin urgentiste réanimateur à Bordeaux, en France.
Il faut lutter mais farouchement contre l'automédication, parce que ça risque d'amener des graves problèmes, et parce que là, récemment, même en France, on a vu des gens qui sont décédés par utilisation de la chloroquine. La chloroquine, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un médicament qui est hautement toxique pour le cœur. Donc, il peut donner des troubles d'urine, qui peut même aller jusqu'à l'arrêt cardiaque, jusqu'à la mort. Hein. Donc, et ensuite, ce n'est pas n'importe qui doit le prendre. Quand on l'utilise dans le cadre de cet essai clinique, on va évaluer l'état cardiaque du patient, on va faire des électrocardiogrammes, des échographies cardiaques, on saura chez qui il faut l'utiliser, chez qui il ne faut pas l'utiliser. Parce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes cardiaques qui ne doivent pas le prendre. Mais ça, si on laisse les gens faire de l'automédication, c'est la porte ouverte à toutes les dérives et c'est extrêmement grave. Ça, c'est un. La deuxième chose, la chloroquine, dans le cadre du coronavirus, n'est pas utilisée à titre préventif. Ça n'a pas été démontré et ce n'est pas préconisé. Donc, il faut que les gens ils sachent ça. Il ne s'agit pas d'aller prendre la chloroquine pour éviter d'avoir le virus. Ça n'a pas de sens et c'est très, très grave. L'autre aussi, élément aussi, c'est que là-bas, ce qu'on voit, c'est que les gens ils vont se précipiter sur la chloroquine, alors que le médicament qui est utilisé actuellement dans les protocoles, c'est de l'hydroxychloroquine. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. Donc, l'hydroxychloroquine, c'est de la chloroquine qui a été modifiée. Il y a une petite modification sur la molécule qui permet de diminuer la toxicité et qui permet de l'utiliser au long cours, c'est-à-dire pendant longtemps. Parce qu'on s'était rendu compte que si on utilise la chloroquine pendant longtemps, ça augmente le risque de toxicité. Donc, vous voyez, et c'est la raison pour laquelle il faut que ces personnes-là qui font de l'automédication avec la chloroquine, ils sachent, ça c'est un message très fort que je lance, c'est pas conseillé, il faut pas le faire. Les seules personnes à qui on peut donner de la chloroquine, c'est les personnes qui ont le coronavirus, qui sont pris en charge à l'hôpital, et c'est le médecin qui le prescrit et qui le surveille. C'est pas un médicament banal, c'est très grave, et ça peut entraîner la mort. Hein. Donc il faut que les gens ils sachent ça.
En Afrique du Sud, le pays du continent le plus durement touché par le virus, avec plus de 700 cas, un groupe musical tente de briser les mythes.
Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité sur l'épidémie du nouveau coronavirus, retrouvez la VOA sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et vos réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, on se lave les mains fréquemment. Portez-vous bien et à bientôt.
Nous sommes arrivés à la fin de Votre Santé, Votre Avenir. La première partie de ce programme hebdomadaire était consacrée à la lutte contre le Covid-19 par le biais de l'application Apollo Covid-19. Nous avons eu les explications de M. Sekou Cheikh Bomba, PDG de SCB Systèmes Côte d'Ivoire et initiateur du projet Apollo Covid-19. Dans la deuxième partie, vous avez suivi Carnet de Santé présenté par Linor Moudou. Ce programme santé a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph. Il vous a été présenté par Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé
car votre santé, c'est votre avenir.